Chapitre 79. Dans le fracas des roulements de sabots, des cliquetis d'armes et des cris de rage ou de douleur, l'unité d'Elsa s'enfonçait au cœur du camp ennemi. Avisant une muraille de soldats, Nathan la bombarda de feux de sorcier afin de déblayer le chemin. Hélas, les 50 hommes carbonisés furent aussitôt remplacés par ce qui semblait être leurs clones.
« Je crois que nous n'irons pas plus loin, très cher, »
dit Nathan à sa compagne.
« Cette position te convient-elle ? »
Beaucoup de choses dépendraient de l'endroit où la magicienne dessinerait sa seconde rune d'ancrage. Du coin de l'œil, Nathan vit qu'un soldat de pierre fondait sur sa tendre amie. Presque nonchalamment, il le repoussa avec un point d'air.
« J'aurais dû demander à Nietzsche sa technique pour arrêter un cœur. Comme ça semblait une façon injuste de combattre, je m'en suis abstenu, mais dans une guerre, tout est injuste, j'aurais dû le savoir. »
Elsa tira sur les rênes de sa monture, puis elle sauta à terre.
« Ici, ça ira. J'aurais préféré aller plus loin pour agrandir la zone de destruction, mais il faut savoir être réaliste. »
Durant l'héroïque percée du groupe, beaucoup de protecteurs avaient péri. En plus de Rendel et des deux Morassites, il restait une dizaine d'hommes, tous convaincus qu'ils n'avaient plus longtemps à vivre.
« Nathan, j'espère que toutes ces morts n'auront pas été inutiles.
Oui, je l'espère. »
Ouvrant la grosse vessie, Elsa commença à dessiner à une vitesse ahurissante compte tenu des circonstances. Effrayée, son cheval détala, mais elle s'en aperçut à peine. Thorn et Lies, les Morassites, se déchaînèrent pour dégager un peu plus d'espace vital à la magicienne. Tous les combattants survivants leur prêtèrent main forte. Protégés par les manteaux de soie magique, ils réussirent à repousser les attaquants adverses qui se faisaient de plus en plus pressants. Encore quelques instants, et Elsa aurait fini. Tandis qu'elle travaillait, Nathan envoya autour de lui une onde de choc qui se développa en cercle concentrique et fit basculer en arrière des dizaines de soldats. Provisoirement à l'abri, Elsa continua à tracer sa rune. Pour mieux défendre son ami, Nathan se laissa glisser de sa selle et son cheval ne tarda pas à lui fausser compagnie aussi. Concentrée au maximum, Elsa jouait le tout pour le tout. Pour l'aider, Nathan ne reculerait devant rien. Mais tout reposait aussi sur le succès des 5 autres équipes. Sans les runes satellites, pas de magie de transfert. Du coin de l'œil, Nathan vit une boule de feu monter majestueusement vers le ciel.
« C'est la 4e !»
cria-t-il à sa compagne.
« On y est presque !»
Sur ces mots, le vieux sorcier revint promptement à ses moutons. En l'occurrence, un colosse de pierre perché sur un destrier, lui aussi à demi-minéral. Épée brandie, le type fonçait droit sur Elsa. Comme s'il tirait sur une corde, Nathan fit jaillir du sol une muraille de poussière dans laquelle le cheval se prit les jambes. Expulsé de sa selle, le colosse de pierre s'écrasa sur le sol. Avant qu'il ait réussi à se relever, l'ancien prophète bondit et lui enfonça dans le torse son épée d'apparat. Avec la satisfaction du travail bien fait, le vieux sorcier se retourna, sa lame dans une main et du feu de sorcier crépitant au bout des doigts de l'autre, une boule de flamme jaillit, carbonisant 20 nouveaux adversaires. Hélas, Nathan sentit qu'il faiblissait. Bientôt, il ne lui resterait plus d'énergie. 4 runes satellites étaient déjà tracées et protégées. En soi, c'était un résultat inespéré.
Encore une!
Sur une colline, une meute d'antiques soldats fondait sur la position du dernier groupe. Des nuages apparurent au-dessus des hommes d'Outros, puis des lances de glace en jaillirent, les contraignant à reculer. Afin de gagner un peu de temps, le chef de cette équipe avait recouru à la magie sans ménager ses forces. Les 4 autres unités battaient en retraite, avec très peu de chances de s'en tirer. Le souffle de plus en plus court, Elsa s'acharnait sur sa rune. Désormais à terre, elles aussi, les Morassites se battaient comme des lionnes, et Rendel compensait son manque de pratique par un enthousiasme qui faisait plaisir à voir. Elsa manifestait une rage de vaincre que Nathan ne lui avait jamais soupçonnée. Alors que ce flot d'ennemis grossissait, il s'approcha d'elle pour mieux la protéger et vit qu'elle pleurait en traçant sa rune. Lorsqu'elle lancerait son sortilège, transférant dans le camp toute la chaleur du fleuve et de la falaise, des dizaines de milliers d'hommes crèveraient dans d'atroces souffrances.
« Ce sont des ennemis très chers, »
tenta de la consoler Nathan.
« Parfois, ils méritent de mourir. »
« Mais les amis ne le méritent pas. Les très chers amis. »
Le vieux sorcier ne comprit pas ce que voulait dire la magicienne. Et il n'eut pas le temps de s'apesantir sur la question. Pour refroidir les ardeurs d'une nouvelle vague d'attaquants, il les accueillit à grands coups de marteau d'air, une variante du poing encore plus dévastatrice. Une lance percuta son manteau, mais sans parvenir à traverser la soie magique. À moins de 100 pas de là, Nathan reconnut le général Outrousse, une moitié de masque en or sur le visage. La flamme de crocs de fer brillant sur son plastron, le militaire, flanqué de ses magiciennes, fonçait vers Elsa.
« Esprit bien-aimé, contre deux magiciennes et une horde de soudards, nous ne tiendrons pas longtemps. Dépêche-toi, mon ami !»
Au-dessus de la position du cinquième groupe, une flèche enflammée décrivait un grand arc dans le ciel, le signal de toute évidence. Mais il aurait dû s'agir d'une boule de feu.
« Elsa, la cinquième rune est achevée. Le signal est une flèche, pas du feu magique. »
Aucun détenteur du don digne de ce nom n'aurait recouru à un arc, sauf si...
« Ça ne peut signifier qu'une chose, » halta Elsa. « La rune est terminée, mais le sorcier de cette unité est mort. Nathan, encore une ligne, et j'activerai le transfert. Ce sera fabuleux, mon ami, et suffisant pour sauver Ildakar, j'espère. »
À présent, des larmes ruisselaient sur les joues de la magicienne.
« Je suis si heureuse de t'avoir connue. Tu es un ami si cher. »
Le cœur de Nathan rata une pulsation.
« Que veux-tu dire ? Active ta rune et filons, afin de pouvoir fêter ensemble ton triomphe. »
« La rune d'ancrage est le centre du sortilège. Pour l'activer, je dois être ici. » Elle drainera la magie de transfert des runes satellites, puis établira la connexion. Tout ce qui est compris dans le périmètre sera détruit, et je dois être physiquement présente dans l'œil du cyclone.
Non, pas question, viens avec moi!
Nathan voulut saisir son ami par le poignet, mais elle eut une réaction stupéfiante. Invoquant un cyclone, Nathan ignorait qu'elle pût recourir à ce type de magie, elle souleva le vieux sorcier du sol et le propulsa dans l'air en compagnie de Rendel, des Morassites et des combattants survivants.
« Arrête !»
cria l'ancien prophète.
« Partons ensemble !»
Au prix de force gesticulation, il parvint à invoquer un bouclier censé bloquer la magie d'Elsa, mais le cyclone gagna en puissance, l'éloignant toujours plus de son ami. Désespéré, il chercha quelque chose à quoi s'accrocher, mais il n'était plus qu'un projectile vivant comme ses compagnons. Seule sur le site où elle venait d'achever sa rune, Elsa versa les dernières gouttes de peinture rouge, l'ultime fraction de ligne requise pour finaliser son œuvre. Autour d'elle, une meute d'antiques soldats resserrait le cercle. Privée de défense, la magicienne, si petite et fragile vue d'en haut, ne tarderait pas à être submergée. Consciente que le temps pressait, elle activa son sortilège. Une fournaise dévasta la plaine plus brûlante que les feux de 100 soleils. Des torrents d'eau continuaient à se déverser le long de la falaise. Sous cette averse, les Norokai lâchaient prise par dizaines, mais certains résistaient et des renforts affluaient sans cesse. À court de projectiles, Bannon et Lila étaient pour l'instant impuissants. D'autres défenseurs, un peu partout, continuaient à bombarder les pillards de pierres, de briques, voire de jarres et d'autres objets du quotidien. Là encore, les Norokai payaient un lourd tribut, mais ça ne les empêchait pas de s'acharner, et ils semblaient disposer de réserves inépuisables. Quand son sang parut bouillir dans ses veines, une réaction familière qui annonçait son passage en mode tueur fou, Bannon se pencha vers le vide, brandit solide et cria
« Nous vous taillerons tous en pièces !»
Lila hocha la tête avec conviction.
« Exactement. Quand ils arriveront, on fera un concours, toi et moi. » Il se pourrait que je te considère bientôt comme un égal, et plus comme un disciple. Oui, si tu t'en tires bien, je te récompenserai de nouveau. »
Malgré le sourire carnassier de la Morassite, Bannon la trouva d'une beauté bouleversante.
« La dernière fois, ça n'est pas moi qui t'ai récompensé ? Et alors, l'un n'empêche pas l'autre, non ?»
Du haut de la falaise, des nobles détenteurs du don bombardaient les assaillants de torches et d'autres objets en flammes. Ces projectiles faisaient souvent mouche, mais les Norokai, même embrasés, continuaient leur escalade. Malgré l'excitation du combat, Bannon vit la rune géante rouge commencer à briller plus intensément et à pulser comme un cœur. Stupéfiés, les pillards crièrent à plein poumon. Pas rassurés du tout, les défenseurs d'Ildakar cessèrent de jeter des objets et se retirèrent à l'intérieur des tunnels.
« La magie de transfert !»
lança Bannon. Lila lui passa un bras autour de la taille et le tira en arrière. Alors que la lueur rouge devenait aveuglante, il sentit tout l'air quitter ses poumons et les gouttes de pluie devant ses yeux se transformèrent en une myriade de minuscules diamants. Dans un bruit de fin du monde, le rideau d'eau sur la falaise devint une couche de glace et les flots qui se déversaient sur les Norukai se solidifièrent en pleine chute. L'aspiration de toute chaleur. En bas, le fleuve Chasse-Corbeau lui aussi se métamorphosa en un immense bloc de glace. Prises au piège, les galères craquèrent sinistrement tandis qu'un étau se resserrait sur leur coque qui ne tarda pas à se fissurer. De fiers navires brisés comme de vulgaires jouets. Glissant sur la glace, les pillards survivants durent lâcher prise et basculèrent dans le vide, mais beaucoup, congelés sur place, adhéraient à la roche, cadavre désormais aussi inoffensif qu'inesthétique. Presque toutes les plateformes et les échelles avaient volé en éclats dès les premières secondes. Les yeux ronds, les défenseurs pointèrent la tête hors de leur refuge, évaluèrent les dégâts et rugirent de triomphe. Remis de la manœuvre un rien brutal de Lila, Bannon inspira à fond puis sourit à sa compagne. Hélas, la tempête de glace ne suffit pas à décourager les maudits Norukai. Les survivants entêtés entreprirent de creuser des prises dans la glace avec leurs couteaux. 50 galères, soit des milliers de pillards qui attendaient encore de prendre part au combat. Retour à la case départ. Lila à ses côtés, Bannon devrait bientôt lutter pour sauver sa peau.